et ils avaient quelques doutes. Et ce matin, j'ai eu à cœur de passer en revue avec vous ces questions. C'est des gens qui se posaient beaucoup de questions. Ça se passe dans le prophète Malachi dans l'Ancien Testament. Vous savez que Malachi, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et après Malachi, 450 ans de silence jusqu'au Nouveau Testament. Et Malachi se termine en annonçant la venue de Jean-Baptiste, puisqu'il dit que avant la venue de Jésus, avant la venue du Messie, il viendra un autre Élie. Et ce nouvel Élie était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était, on peut dire, le dernier prophète de l'Ancien Testament qui était à la juxtaposition entre l'Ancien et le Nouveau. Et ce prophète Malachi m'intéresse parce que ça se passe, je ne sais pas si vous savez, mais Malachi, ça se passe à peu près à l'époque de Néhémie, l'époque où le peuple est revenu de la captivité. Il y a eu l'édit de Cyrus et ça se passe un siècle après Agé et Zacharie. Le temple a été reconstruit il y a à peu près 100 ans. Et là, il y a cette époque-là un peu spéciale, un peu trouble, où il y a des gens qui sont revenus en Israël, il y en a qui sont restés en Babylone. Et c'est une période un peu spéciale, une période de déclin spirituel. C'est une période difficile. Le temple est bien rebâti, les sacrifices ont été remis en service dans l'Ancien Testament, on sacrifie des animaux pour le pardon des péchés du peuple. Mais en même temps, lorsque vous lisez Malachi, lorsque vous lisez Néhémie, lorsque vous lisez Esdras, vous voyez que le peuple il va pas bien du tout. Et c'est une période de déclin spirituel, le niveau moral est très bas. Et les coutumes des pays autour se sont implantées dans le cœur du peuple. Et il semble qu'à cette époque-là, et je pense que ça va parler un peu pour nous, pour notre époque maintenant aussi, parce que je ne pense pas que vous faire que de l'histoire, et on est bien pour parler pour aujourd'hui en France, à la Mosson, au XXIe siècle. À l'époque, il semblait qu'il ne se passait rien. Rien. Il semble que Dieu, il a oublié son peuple. Il semble que le temple, il a été bâti, ouais, d'accord, il y a les sacrifices, mais Dieu, il avait annoncé que la gloire de Dieu remplirait le temple et le peuple, il ne voit rien du tout. On en avait parlé à une prédication que j'avais faite il y a un petit moment déjà. Et il n'y a rien qui se passe. Dieu, il a promis plein de trucs. Il a promis la venue de la gloire, etc., etc. Et la venue du Messie même. Et puis, il ne se passe rien. Rien. Il ne se passe rien. Et le peuple est découragé parce qu'il y a des gens qui commencent à se dire eh bien, à quoi ça sert de servir Dieu, à quoi ça sert d'aimer Dieu. Et il semble que les gens qui marchent avec le monde, eh bien, ça va beaucoup mieux que les gens qui marchent avec Dieu. Ça ne vous rappelle rien, ça? Il semble que ça semble plus facile de marcher loin de Dieu que de marcher près de Dieu. Ça vous fait penser à rien, ça? Ça semble que, vous savez, c'est des gens qui sont un peu les gens qui veulent... Il y a une petite minorité là, de gens qui veulent encore s'attacher à Dieu, mais on dirait qu'ils sont un peu has-been. Ils sont un peu démodés, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont attachés aux vieilles valeurs, mais ils ne sont pas modernes. Et autour d'eux, eh bien, on dit, mais tu te fatigues pour rien, mon gars. Tu te fatigues pour rien, regarde Dieu, il s'en fiche de nous. C'est ça, un peu le contexte de l'époque. Et Malachi, c'est un livre, un prophète qui est particulier, c'est un court livre de l'Ancien Testament, le dernier, donc pour moi c'est important parce que c'est le dernier de l'Ancien Testament. Il n'y a que 3 ou 4 chapitres. Je dis 3 ou 4 chapitres parce que ça dépend des versions. Il y en a qui vous le mettent en 4, il y en a qui vous le mettent en 3, peu importe. Et ce livre, il est particulier parce que c'est un dialogue. Dieu parle, il dit des choses, et le peuple, il répond par des questions. C'est des questions-réponses. Et vous allez voir, ces questions-réponses, elles nous intéressent parce que Dieu s'abaisse à répondre aux questions que le peuple lui pose. Mes questions souvent de bien mauvaise foi. Alors on va prendre un premier passage, Malachi chapitre 1, donc c'est facile à trouver, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 1, verset 2, Dieu dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü, etc. etc. » C'est un livre qui commence par une déclaration d'amour. Dieu dit, je vous ai aimé. Il dit, je vous ai aimé. Et sous-entendu, je vous aime toujours. Il ne dit pas, je vous ai aimé pour dire, je ne vous aime plus. Il dit, je vous ai aimé parce qu'il veut prouver qu'il a aimé. Alors le peuple dit, mais En quoi nous as-tu aimé? Prouve-le. C'est quand même incroyable. Ils sont quand même tombés bas. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, si Dieu me dit « je t'ai aimé », enfin bon. En quoi nous as-tu aimé? Alors Dieu dit ben, « je vous ai aimé parce que je vous ai fait grâce, je vous ai élu ». On ne va pas rentrer dans le détail, mais il dit « j'ai aimé Jacob, le peuple Israël, et j'ai préféré Jacob à Ésaü ». C'est tout le domaine de l'élection de Dieu. Mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus parce que c'est un sujet difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu dit « je vous ai aimé parce que je vous ai choisi ». Et il aurait pu dire plein d'autres choses. Il aurait pu dire « mais je vous ai prouvé que je vous ai aimé ». Je vous ai délivré de l'esclavage d'Égypte. J'ai fait plein de miracles pour vous. Je vous ai aidé tout au long de vos difficultés. Et je vous ai délivré bien des fois quand vous avez crié à moi. Et vous voyez, le peuple est tombé bien bas. En quoi nous as-tu aimé? Ils ont de l'amnésie. C'est un peu comme les... Ils sont un peu négationnistes sur les bords. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont négationnistes. Ben non, tout ça c'est quoi? Non, ça s'est pas passé. Il n'y a rien qui s'est passé, Dieu n'a pas fait de miracle, tout ça, c'est des vannes, quoi. Et nous, est-ce que peut-être que certains pensent au milieu de nous que Dieu ne les a jamais aimés? Pour nous, chrétiens, ça semble évident que Dieu nous a aimés, mais ce n'est pas si évident que ça. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Il a prouvé son amour envers nous en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. Et cet amour a été, c'est un fait historique, Dieu a prouvé son amour en ce que le Fils a porté nos maladies, nos péchés, il s'est fait crucifier sur la croix pour nous. C'est un fait historique. Mais nous chrétiens, parfois on se dit, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Ça peut arriver un chrétien qui doute de l'amour de Dieu? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand vous êtes sous le poids de l'épreuve, quand le problème est long, quand vous vivez une longue maladie, quand vous vivez des épreuves difficiles, quand vous vivez des choses très difficiles, des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes chrétien et vous dites « mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça ? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ces choses-là dans ma vie ? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ces choses compliquées dans ma vie ?» Et on n'a pas toutes les réponses. Et quand vous criez à Dieu et qu'il semble que Dieu ne répond pas, je crois sincèrement que le doute peut frapper le cœur du chrétien. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas dire « moi je suis extra-spirituel, moi je suis formidable, moi je suis extraordinaire ». Non, je crois que le chrétien peut être atteint par le doute parce qu'il a un il crie à Dieu et il semble que Dieu ne parle pas. C'est pas facile, ça. Imaginez, je prends un exemple, imaginez ces enfants, ces parents qui sont au Nigeria du Nord, à qui on a enlevé leurs enfants, les garçons pour en faire des enfants soldats, les femmes, les filles, les fillettes pour en faire des esclaves sexuels. Eux, ils sont chrétiens. Et leurs enfants ont été enlevés. C'est pas facile. Alors je crois que oui, on peut douter de l'amour de Dieu, mais on ne peut pas rester dans ce doute, parce que c'est autodestructeur, et on est appelé à rester sur ce que dit la Bible. Dieu dit qu'il m'aime d'un amour éternel. Il dit que son amour ne s'éloignera jamais de moi, et que même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, même si je ne sais pas expliquer toute chose, je sais que Dieu m'aime. Et le problème pour moi est plus de savoir si mon amour pour Dieu a baissé que si l'amour de Dieu a baissé pour moi. L'amour de Dieu ne baissera jamais, même si je ne comprends pas tout. Mais quand je sens que je doute de l'amour de Dieu, alors moi, en tant que chrétien, j'ai un remède formidable, parce qu'on a quelque chose de formidable par rapport aux gens de l'Ancien Testament, c'est qu'on peut revenir à la croix. On peut dire, mais Jésus, lui, il a été abandonné du Père. Jésus, lui, il a subi l'abandon. Lui, il a subi l'incompréhension. Jésus, il a été trahi. Lui, Jésus, il a été trahi par Judas. Il a été abandonné, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a été renié par Pierre. Et il avait des gens qui se moquaient de lui. Et surtout, il a été séparé de son Père pour moi. Et quand je ne comprends pas, quand mon amour baisse, quand il semble que je doute de l'amour de Dieu, alors il faut peut-être que je me dise, mais peut-être que c'est mon amour à moi qui baisse. Et alors, si je ne comprends pas, je viens vers l'incompréhensible, je viens au pied de la croix, là où l'amour de Dieu est accompli pour moi. Amen. Une autre question que le peuple pose, Regardez, chapitre 1, verset 6, Dieu dit, là il parle surtout aux sacrificateurs, donc aux responsables, aux prêtres de l'époque, aux prêtres. Dieu dit aux prêtres de l'époque, aux responsables spirituels, chapitre 1, verset 6, un fils honore son père. Logique, enfin, en temps normal. Et un serviteur son maître. On pourrait dire un employé son patron. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? C'est Dieu qui parle. Hein ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons... Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Dieu dit, alors on est à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque des sacrifices, il dit, mais vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien ? Te refera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées ? Vous voyez, Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Mais moi, si Dieu me parlait comme ça, je me mettrais dans un trou. Si Dieu me disait, mais je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû ? Je me poserai des questions. Mais regardez le peuple, comme il réagit. Il dit, mais en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Où est le problème ? Où est le problème ? Et on se demande, je ne sais pas, et j'avoue que je n'ai toujours pas résolu, peut-être que c'est les deux à la fois, je ne sais pas si c'est parce qu'ils font les idiots et qu'ils font l'Autriche, ou qu'ils sont tellement devenus insensibles au mal qu'ils ne savent même plus qu'ils sont dans le mal. Ou les deux en même temps. Un mélange de mauvaise foi et un mélange d'inconscience. Je ne sais pas. Mais Dieu leur dit, mais voilà, mais... Alors, Dieu savait ça, répondit, il leur dit, mais regardez, la loi de Moïse dit qu'on doit offrir à Dieu le meilleur. Vous faites économique. Vous offrez ce que personne ne veut et vous offrez à Dieu ce qui reste. En gros, c'est ça qu'il leur dit, Dieu. Vous offrez, vous ne respectez pas la loi, vous offrez à Dieu ce qui reste. Alors, vous faites économique, vous faites ce qui ne vous coûte rien. Et pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça me dit pour moi ? Moi, je n'offre pas de sacrifice à Dieu, je n'offre pas des animaux, voilà. Jésus est venu, il n'y a plus besoin de tout ça. Mais est-ce que mon Dieu, je parle pour moi, est-ce que Dieu est ma priorité ? Est-ce qu'il est le centre de ma vie ? Est-ce que je lui offre le meilleur de mon temps, de ma vie, de mes affections, ou est-ce que je lui offre ce qui reste ? J'en profite pour vous dire que quand vous êtes jeune, j'ai eu le privilège de donner ma vie à Jésus à 16 ans, jamais j'ai regretté, je ne regrette pas du tout d'avoir donné ma vie à Dieu, le meilleur de ma vie, quoi. Dieu, il accepte les personnes âgées, alléluia. Ma grand-mère s'est fait baptiser, je crois qu'elle devait avoir 80 ans peut-être, et Dieu, il a prise. Mais si on peut offrir à Dieu le meilleur, c'est mieux encore. C'est mieux. Si vous pouvez offrir à Dieu toute votre énergie, toute votre vitalité, c'est mieux. C'est mieux. Et est-ce que parfois... Maintenant, je dis, j'offre à Dieu le meilleur. Mais est-ce que j'offre encore à Dieu le meilleur maintenant, aujourd'hui ? Il n'y a que Dieu qui peut me le dire. Je ne sais même pas moi si je peux me répondre à moi. Mais est-ce que le Dieu qui était tout le centre de ma vie quand j'avais 16 ans, est-ce qu'à mon âge canonique de 64 ans, il peut encore, est-ce qu'il peut prétendre être le mieux de ma vie ou est-ce que je me suis laissé un petit peu, voilà, et maintenant je suis tellement sage que, tellement raisonnable. Vous voyez, et ça, c'est des choses... Et vous savez, ce qui est formidable, c'est qu'avec le Seigneur, ce n'est pas du jugement, c'est pas, on n'est pas... Le Seigneur, il n'est pas là pour nous écraser, mais si Dieu, le Seigneur me dit, eh bien voilà, tu sais, Patrick, ça s'est un peu refroidi, eh bien, je sais que le Seigneur, il ne me dit pas ça pour me couler, mais il me dit ça pour m'aider. Et il me dit, eh bien, reviens à la croix, reviens à ton premier amour, et retrouve cet amour qui vient du cœur, là, et qui fait que cette obéissance, elle n'est pas forcée, mais elle est du cœur. Elle est du cœur. Vous croyez ce que je veux dire ? Et une troisième question, chapitre 2, verset 13. Ah, il en pose des questions, le peuple à Dieu. Il en pose des questions. Hein. Alors Dieu dit... c'est un passage pas évident. Je marche sur des œufs, donc je vais y aller mollo. Vous verrez que ce passage est très contemporain. Dieu dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. L'autel, c'est là où on prie, on a fait des sacrifices, hein, ce n'est pas l'autel 3 étoiles, hein, c'est l'autel. Excusez-moi. Parce que vous couvrez l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, aux sacrifices, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Ça veut dire que Dieu n'accepte plus vos sacrifices. Et vous dites, pourquoi ? Pourquoi ? Question du peuple, question innocente, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a rien. Et Dieu dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà. Alors, c'est compliqué. Là, les Juifs, ils ont... Alors, on est dans l'Ancien Testament. Hein, dans l'Ancien Testament, en Israël, Dieu il avait dit que les Juifs ne devaient pas se marier avec des non-Juifs. C'est l'Ancien Testament. De peur que les Juifs, dans leur faiblesse, suivent les idoles des peuples étrangers. Bien sûr, ça ne s'applique pas. On n'a pas de, dans l'Église chrétienne, il n'y a pas de, de normes ethniques ou raciales. Mais mes deux belles filles sont de couleur plus que foncée. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais pour nous, pour le Nouveau Testament, quand même, la Bible dit que pour le chrétien, il est quand même vivement recommandé, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé de se marier avec un chrétien ou une chrétienne, tout simplement parce que, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants. Bien sûr, vous n'allez pas avoir le feu du ciel qui vous tombe si ça ne se passe pas comme ça, mais c'est une recommandation de Dieu. Maintenant, je viens au problème. Dieu dit, voilà, vous avez 3 problèmes. Vous priez, mais moi, quand vous priez, je n'entends pas la prière. J'entends des larmes et des pleurs. Ah ! Alors, moi, je prie, Alléluia, Seigneur, tu me bénis ! Alléluia ! J'ai un beau culte. Et Dieu, là-haut, il entend des pleurs. Quels pleurs ? Il a dit, eh bien, j'entends les pleurs et les gémissements de vos ex-femmes, des femmes juives dont vous avez divorcé pour vous remarier avec des femmes non-juives. Vous les avez pris comme des sacs jetables, vous êtes divorcé d'elles, et j'entends leurs larmes. Et Dieu dit, mais il y a un deuxième problème, c'est que j'ai été témoin de votre mariage, c'était un engagement sacré devant moi. Et vous avez rompu cet engagement sacré. Et Dieu dit, il y a un troisième problème, c'est que j'ai une haine absolue du divorce. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça, parce que je marche sur des œufs, parce que je sais qu'il y a toutes sortes de situations difficiles, plein de cas, et on ne va pas rentrer dans les détails, il y a plein de cas où le divorce... Bon, on n'est pas là pour parler de divorce ce matin. Mais néanmoins, Dieu dit, je veux hais le divorce. Après, il y a plein de cas particuliers, je ne rentre pas dans le détail. Ayant dit cela, je me dis, qu'est-ce que c'est cette leçon pour moi que je tire de ce passage ce matin ? Je me dis simplement, voilà un peuple qui a une belle apparence religieuse, mais en tout cas, à la maison, ça ne se passe pas du tout comme Dieu veut. Et c'est ça que je retiens ce matin. Je dis, c'est pour ça que j'ai noté ce chapitre, ma cohérence avec Dieu. Notre Seigneur veut que nous soyons cohérents. Chrétiens à l'église, chrétiens à la maison, chrétiens à la maison, chrétiens au travail, chrétiens le dimanche, chrétiens le lundi, chrétiens à 3h de l'après-midi, chrétiens à 3h du matin. Amen. Et c'est juste ça que je retiens ce matin. C'est que le Seigneur ne veut pas de ma vie une vie religieuse, mais une vie cohérente. Et c'est bien dans le Nouveau Testament, puisque l'apôtre Pierre disait aux maris, aux chrétiens mariés, ayez de la sagesse avec vos femmes, parce que sinon, vos prières, elles dépasseront pas le plafond. Premier épître de Pierre, Nouveau Testament. Donc, le Seigneur nous demande que tout notre cœur soit éclairé de sa sainte lumière et que je ne sois pas comme les hommes religieux de l'époque de Jésus, les pharisiens, avec une apparence, avec un vernis, mais que toute ma vie, constamment, et c'est une lutte, frères et sœurs, c'est une lutte que notre vie soit cohérente et tout le temps éclairée par le Seigneur. Et ça va vite. Je peux être cohérent aujourd'hui et incohérent demain, parce que il n'y en a pas un d'entre nous qui est meilleur que l'autre, et on a tous nos points faibles. Et le seul secret, c'est de vivre dans la lumière. Vous êtes d'accord ? Une quatrième question, chapitre 2, verset 17. Dieu dit, alors là, moi si le Seigneur me dit ça, moi je suis mal. Hein. J'espère que vous ne dites pas ça de moi en tout cas. Parce que Dieu dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. J'espère que je ne vous fatigue pas ce matin. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, chapitre 2, verset 17, et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué ? Où est le problème ? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de justice ? Eh oui, quel Dieu ? Vous voyez, ce peuple a perdu la notion de la nature de Dieu. Ils sont tellement... Et là, c'est vraiment contemporain comme problème. Ils disent, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Ils disent que Dieu, non seulement il ne juge pas bien, mais en plus qu'il est même... il juge très très mal et qui, non seulement il n'y a plus de notion de bien et de mal, mais qui ne voit même pas juste. Dieu ne voit rien, il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Et il y a cette frontière à l'époque entre le bien et le mal qui est partie là. Et il y a cette notion, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Vous ne trouvez pas que ça nous parle ? Vous ne trouvez pas que ça nous parle ? On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Tout est relatif. Et le peuple dit, ben voilà, maintenant, il n'y a plus de Dieu de justice, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien, on ne voit pas le jugement de Dieu sur la terre, les méchants réussissent et les bons sont punis. Et Dieu répond en disant, c'est écrit après, je ne vous le lis pas, mais Dieu dit, mais vous savez, vous verrez de nouveau la différence entre le bien et le mal, parce qu'il va y avoir un jugement. Il va y avoir un jugement et vous verrez de nouveau la différence. Il y aura un jugement qui va détruire les pécheurs et il y aura un jugement qui va récompenser ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent au Seigneur. Alors, vous savez, frères et sœurs, ça peut nous arriver, nous aussi, et de dire, mais peut-être que ça serait bien que je baisse mon standard de sainteté. Peut-être que finalement, ça serait bien que je fasse comme tout le monde. Et que maintenant, après tout, tout le monde fait comme ça. On ne va pas rentrer dans des détails, des trucs précis, mais voilà, il y a une telle pression. Et la pression, elle n'est pas dehors. La pression, elle est dedans. Je ne suis pas prophète, mais je vous annonce quelque chose qui s'est déjà passé, qui est en train de se passer, donc ce n'est pas une prophétie. On aura de plus en plus de mal à trouver des églises qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, et qui n'acceptent pas le péché au milieu d'elles. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Et la pression, elle n'est pas en dehors, mais elle est dedans. Il ne s'agit pas de revenir à une loi de pharisiens où on vous coupe les cheveux en quatre, si je puis dire, mais je parle de vrais standards de sainteté, de vérité, de justice. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de garder la perspective, de nous dire, mais je ne vis pas pour maintenant, mais je vis pour là-haut. Et quand même, quand je vais comparaître devant Dieu, je vais être tout seul. Vous le savez, ça ? Il n'y aura pas mes parents, il n'y aura pas ma femme, il n'y aura pas mon époux, il y aura... Enfin, je vais rendre compte pour moi-même. Et chapitre 3, verset 7, Dieu dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ?» Alors Dieu dit, ben voilà, juste après il dit, voilà, vous trompez Dieu, dans vos offrandes. Parce qu'à l'époque, on donnait la dîme. On donnait la dîme dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas faire un discours sur la dîme, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, c'est que Dieu dit, vous vous êtes écartés. Vous êtes éloignés. Vous vous êtes écartés. Et certains d'entre nous aiment bien faire de la randonnée. Moi, j'aime bien faire de la randonnée, mais je ne suis pas un grand randonneur. Je n'ai pas fait l'Himalaya, mais j'aime bien me balader en montagne. Et vous savez que le gros piège de la montagne, vous savez ce que c'est ? C'est que quand vous êtes en haut de la montagne et que vous trompez de chemin pour descendre, au début, c'est pas loin. Mais quand vous êtes en bas de la montagne, c'est très, 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 très loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? On s'écarte comme ça, petit à petit. Et c'est vrai que dans notre vie chrétienne, parfois, tout le monde, nous tous, nous avons parfois des moments où nous nous écartons petit à petit du standard. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce que souvent, des fois, on s'en rend compte nous-mêmes. Parce qu'on sent que, voilà. Mais je ne parle pas de ce cas-là. Je vais vous parler du cas où vous ne vous en rendez pas compte. Parce que la vie chrétienne est pleine de pièges. Et parfois, on s'éloigne et on ne sait pas nous. Et là, on a besoin d'un critère objectif. Un bilan de santé. Vous avez déjà fait un bilan de santé ? Vous savez, des fois, vous êtes en forme, vous allez au labo, on vous balance un bilan de santé, puis vous avez des analyses de fou, alors que tout va bien, et puis on a trouvé un truc, quoi. Vous voyez ? Pas vous faire peur. Et c'est exactement ça. Et notre bilan de santé, je me suis dit, mais c'est quoi ce bilan de santé ? Ben, je me dis que parfois, le bilan de santé, c'est le regard d'un frère et sœur, frère ou sœur spirituel, qui voit plus clair sur moi que moi-même. Ça arrive. Il faut être humble. Parfois, il y a quelqu'un qui va venir vous voir et qui sait que vous n'allez pas, mais vous, vous en rendez pas compte. C'est important, ça. On a besoin, pas de surveiller les uns les autres, mais de veiller les uns sur les autres. Et après, je me suis dit, un autre critère, bien sûr, c'est ma relation avec Dieu. Ça, c'est le béaba. Mais je me suis dit qu'après, un autre critère, c'est le critère objectif de la Bible. De la Bible. Parce que la Bible est le critère objectif. Et parfois, elle dit des choses que je ne vis pas, et donc je me dis il y a quelque chose qui ne va pas entre la trajectoire. Et ma trajectoire s'éloigne. Et alors, c'est quand cette trajectoire s'éloigne, Dieu dit, il leur dit, prenez garde à votre esprit. Il leur dit, mais soyez avec un cœur pur. Et je ne peux pas prendre tout Malachi, bien sûr, mais Dieu dit, prenez garde en votre esprit. Et frères et sœurs, on a besoin de veiller sur notre cœur pour que notre cœur soit toujours entier avec le Seigneur. Voilà pour les questions. En quoi devons-nous revenir ? Et une dernière question, chapitre 3, verset 14, Dieu dit, verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Et vous dites, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. » Voilà, Dieu dit, « Vos paroles sont rudes contre moi », et eux y répondent, « Mais qu'est-ce qu'on a dit contre toi ?» Et Dieu dit, « Mais vous avez dit, mais qu'est-ce qu'on a à gagner ?» Qu'est-ce qu'on a à gagner ? Qu'est-ce que tu as à gagner d'être chrétien ? Est-ce qu'on est devenu chrétien pour réussir dans la vie ? Est-ce qu'on est devenu chrétien pour être riche ? Est-ce qu'on est devenu chrétien pour être toujours en bonne santé ? Est-ce qu'on est devenu chrétien pour que ça aille toujours bien dans notre vie ? Non, on est devenu chrétien avant tout parce qu'on a rencontré Jésus, c'est vrai, souvent dans nos problèmes. Enfin, personnellement, je suis venu à Christ pour un motif très intéressé. J'étais dépressif et le Seigneur m'a dit, j'ai découvert un Dieu qui me guérissait de la dépression. Donc je suis venu à lui comme quelqu'un qui m'apportait quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi que si j'étais resté là, je ne serais pas allé bien loin. À un moment, j'ai découvert que le Seigneur, il n'était pas venu juste pour me guérir de la dépression, il était venu pour me pardonner mes péchés, il était venu pour habiter dans mon cœur et pour que je sois son disciple, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et c'est ça que le Seigneur dit, mais le peuple dit, mais qu'est-ce qu'on a à gagner ? Comme si c'était une affaire de marketing, comme si c'était une affaire de... Voilà, Dieu, qu'est-ce que tu me donnes ? Tu me donnes quoi ? Tu me donnes la vie éternelle, c'est déjà pas mal. Tu me donnes le pardon de mes péchés, c'est déjà pas mal. Et en conclusion, vous verrez, vous lirez chez vous, c'est écrit au chapitre après, 3 ou 4, comme vous voulez, c'est écrit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même quelques personnes qui n'étaient pas tout à fait comme ça, mais qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Et ce n'était pas le même public, vous voyez. Et chapitre 3, verset 16, dans ma Bible, il y a marqué « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. » Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Je ne trouvais pas que c'est un bon encouragement pour nous. Dans une période de déclin, tu as besoin de tes frères et de tes sœurs, et on a besoin de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres. On a besoin de se parler les uns aux autres. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et Dieu entendait, et Dieu écoutait, et Dieu écrivait. Ils se parlèrent l'un à l'autre. On a besoin de ce, comme les disciples d'Emmaüs, qui eux, ils étaient plutôt découragés, mais Dieu était là, Jésus était là au milieu d'eux. Alors, c'est vrai que dans cette période, je peux soit critiquer Dieu, je peux dire, poser toutes sortes de questions de mauvaise foi, soit je peux parler avec Dieu. Parce que c'est bien, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, mais j'ai envie de vous dire, c'est très bien, mais c'est encore mieux de parler avec le Seigneur. Et d'avoir une discussion avec lui et de lui dire, Seigneur, mais tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'avoir de la mauvaise foi et de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Qu'est-ce que tu m'apportes ? Qu'est-ce que je gagne avec toi ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est pas la même chose que ça, de pure mauvaise foi, que de venir au Seigneur et de dire, Seigneur, entre toi et moi. Tu vois, Seigneur, je comprends pas ça. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je suis dans les questionnements. Pourquoi il y a ça qui m'arrive ? Ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et quand je suis avec le Seigneur et que je lui dis, toi, Seigneur, je ne suis pas en train de te critiquer auprès des autres, mais moi, je te parle à toi et je te dis, il y a ça qui ne va pas. Ça, tu peux le faire auprès du Seigneur, parce que Jésus, il est quand même notre meilleur ami. Il est celui qui te comprend parfaitement. Il est celui qui nous connaît parfaitement. Et il est celui qui peut vraiment, dans notre cœur, par nous redonner du courage, nous redonner de l'espoir et nous redonner peut-être la bonne perspective dans une époque, il faut le confesser, qui n'est pas évidente. Une époque qui n'est pas évidente et où on a vite fait de se laisser emporter. Mais justement, nous sommes là ce matin pour nous encourager à devenir meilleurs. Les uns, les autres, on s'encourage pour devenir meilleurs que lorsque nous sommes rentrés dans cet endroit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu connais les questionnements, les interrogations. Et nous savons qu'en toi, nous avons le meilleur des amis. Nous avons vraiment celui qui nous comprend parfaitement. Tu es notre ami. Tu es celui qui est venu à notre secours. Tu es celui qui nous comprend et qui est capable de comprendre même ce que nous ne pouvons pas exprimer. Alors nous te louons, nous te bénissons, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.